Le journal Mireille Boukassa.
La rétrocession de 40% des recettes aux provinces au centre des discussions à Kinshasa. Pouvoir central, gouverneur des provinces et président des assemblées provinciales y réfléchissent pour harmoniser les différents points de vue. En province orientale, des paysans se sont soulevés contre une entreprise d'exploitation forestière. Les habitants de Baoumé réclament notamment la construction des centres hospitaliers et des écoles. Les combattants des FRPI sont prêts pour le brassage, accordonné ce lundi par Cobra Matata, chef de la milice FRPI devenu officier FRDC. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il se tient en ce moment même des travaux de concertation au Grand Hôtel Kinshasa entre le gouvernement central, les gouverneurs des provinces et les présidents des assemblées provinciales. Ces travaux consistent à amener les participants à réfléchir et à harmoniser leurs vues autour de la problématique de la rétrocession de 40% des ressources revenant aux provinces. Retrouvons Jeff Ngoy depuis le Grand Hôtel Kinshasa.
Le gouvernement de la République, les gouverneurs des provinces et les présidents des assemblées provinciales ont deux jours de réflexion pour harmoniser leur vue sur les textes relatifs à la décentralisation, clarifier les recettes et impôts propres aux provinces. Selon le ministre de l'Intérieur, Denis Kaloumé, l'objet de cette rencontre est d'arrêter ensemble, et ce, de commun accord, des modalités pratiques et transitoires qui puissent permettre aux provinces de bien fonctionner en attendant la rétrocession effective de 40% des recettes revenant aux provinces. D'ores et déjà, le débat annonce houleux. Quelques gouverneurs exigent la rétrocession immédiate de ces 40% des recettes. Sinon, disent-ils, ce serait une violation de la Constitution de la part du gouvernement. Tous les gouverneurs des provinces affichent complet, hormis quelques présidents des assemblées provinciales que l'on voit à peine au salon Lubumbashi du Grand Hôtel Kinshasa. Ces concertations devront produire un document commun à présenter demain au Premier ministre. Depuis le Grand Hôtel Kinshasa, Jeff Ngoy, Radio Okapi.
Pendant ce temps, à l'Assemblée provinciale du Kasaï occidental, une partie des députés ont déposé une motion de défiance contre le gouverneur de province, signée par 15 députés provinciaux sur les 54 que compte l'Assemblée. Cette motion accuse le gouverneur Trésor Kapoukou de violer des dispositions pertinentes de la Constitution et aussi d'avoir une attitude méprisante à l'égard de l'Assemblée provinciale. Basile Bakoumbani.
C'est lors d'une assemblée plénière dirigée par le premier vice-président que cette motion a été déposée. Les signataires de la motion mettent plusieurs griefs à la charge du gouverneur Trésor Kapoukou-Ngoï, notamment la violation de la Constitution et manque de collaboration avec l'Assemblée provinciale, ce qui, d'après eux, compromettrait les décollages et les développements de la province. D'où leur souci de demander qu'il soit simplement évincé. Le bureau de l'Assemblée provinciale qui a reçu cette motion a promis de l'examiner dans l'Assemblée plénière qu'il convoque dans 48 heures. Cela conformément à la Constitution de la République. Notons que le dépôt de cette motion intervient pendant que le gouverneur de province ainsi que le président de l'Assemblée provinciale se trouvent en mission de service à Kinshasa. Rappelons que selon l'article 198 de la Constitution, la motion de défiance est une motion de désaveu d'un membre du gouvernement provincial. Elle est recevable si elle est signée par un dixième de membres de l'Assemblée. En cas d'adoption de cette motion, le membre désavoué devient automatiquement démissionnaire. Tout ceci, contrairement à la motion de censure, qui, elle, concerne tous les gouvernements. Kananga, Basile Bakoumbane, Radio Okapi.
Deux ministres viennent d'être révoqués et remplacés immédiatement du gouvernement provincial du Nord Kivu. Cette décision du gouverneur intervient deux mois après la nomination et l'approbation des membres du gouvernement par l'Assemblée provinciale. Des voix s'élèvent déjà pour critiquer la procédure. Rosalie Zawadi nous en parle.
Nommé le 2 avril dernier, le gouvernement provincial du Nord Kivu vient de subir son premier remaniement à travers un arrêté signé le samedi 2 juin. Au terme de cet arrêté, on note deux remplacements. Djuma Balikwisha remplace Gilbert Kiatingé Omine et Aimable Bafakoulera prend les commandes du ministère de la Jeunesse et Sport en lieu et place de Moindo Abouati. Selon les concernés, c'est par la radio officielle qu'ils ont pris connaissance de leur limogeage du gouvernement provincial. Même avis du côté de l'Assemblée provinciale qui condamne cette procédure du gouverneur Julien Paluku. Pour son rapporteur Gilbert Kalinda, après l'investiture d'un gouvernement par l'Assemblée provinciale, la destitution individuelle ou collective des membres de ces gouvernements ne revient plus au gouverneur seul selon la Constitution. Contacté à partir de Kinshasa où il est en mission, le gouverneur s'est réservé de tout commentaire en attendant son retour à Goma. Il faut noter que toujours dans cet arrêté, le gouverneur vient de compléter le nombre des membres de son gouvernement par un ministre, ce qui porte à 10 le nombre des ministres provinciaux Nord Kivu. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
En province orientale, une tension règne entre les habitants du village Baoumé et l'entreprise Transimbois. Ces paysans exigent à cette entreprise d'exploitation forestière de mettre en place certains projets durables au profit du bien-être social des paysans, notamment la construction des centres de santé et des écoles en matériaux durables. Pour faire pression à cette entreprise, le week-end dernier, les paysans ont barricadé la route, empêchant ainsi aux camions d'acheminer les grumes vers Kisangani. Des précisions avec Dorcas Tonkou.
Les manifestants sont venus du village Baoumé, dans le secteur Bamanga, à une quarantaine de kilomètres du chantier de l'entreprise Transimbois. Ils réclament non seulement la propriété de l'espace forestier exploité par cette entreprise libanaise, mais également l'amélioration de leurs conditions sociales, notamment la construction des écoles, des centres de santé et d'autres activités d'intérêt communautaire. Ils ont donc bloqué le passage à tout véhicule de l'entreprise. Pour Transimbois, le cahier des charges est signé avec le groupement et non avec un seul village comme c'est le cas. Sans directeur ajoute par ailleurs qu'il est confronté à une difficulté liée au conflit de délimitation entre plusieurs secteurs pour le même espace vert. Cependant, la voie a été dégagée quelques heures plus tard grâce à l'intervention de la police venue de Kisangani. Contacté, le vice-gouverneur de province dit être saisi de ce dossier. Pour Joseph Bangakia, une solution durable ne proviendrait qu'après discussion avec les responsables de la territoriale, de l'assemblée provinciale et des partis en conflit. Kisangani, Dorcas Kankou, Radio Okapi.
12 000 francs congolais, soit près de 22 dollars américains, c'est le prix d'un sac de ciment à Lubumbashi. Ce prix élevé du ciment a ralenti plusieurs constructions dans la ville. Les acheteurs ainsi que tous ceux qui construisent réclament une baisse du prix du ciment. C'est ce que nous dit Paulin Munanga dans ce reportage.
Visiblement, beaucoup de chantiers ont ralenti à Lubumbashi. Pour ceux qui bâtissent à 22 dollars le sac de ciment, il n'est pas du tout facile d'achever sa maison.
Le ciment, normalement, s'achetait à 8 000 francs. Mais actuellement, le ciment est passé de 8 000 à 12 000, 12 500. Voire même, des temps où il y a des crises, ça monte même jusqu'à 16 000. Vous vous rendez compte comment est-ce que vous pouvez arriver à construire? Donc c'est un peu compliqué. Pour quelqu'un qui vit à Lubumbashi actuellement, c'est un peu difficile.
Contacté à ce sujet, le ministre provincial de l'économie et finances indique que la Zambie, qui est le principal fournisseur du Katanga en ciment, fait face actuellement à une très forte demande en ciment en provenance de l'Afrique du Sud. Léon Chakwiza affirme que des efforts sont fournis pour remettre en marche les entreprises locales qui produisaient le ciment, notamment la cimenterie du Katanga et la cimenterie de la Jekamine. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Au Kasaï occidental, le trafic routier sur le tronçon Luebo-Chikapaer est devenu intense, ceci grâce à la réhabilitation de deux ponts sur les deux voies de sortie de la cité des Djokopunda. Nous sommes à 275 km de Kananga, dans le territoire de Luebo. Cette œuvre de la compagnie de transport India Whisky Transport permet le désenclavement de cette cité de près de 25 000 habitants. Basile Bakumbani.
Il s'agit du pont Lubi sur la route vers Luebo Cité et celui de Chinginda sur la voie vers Chikapa. De près de 10 mètres de long chacun, ce pont était complètement détruit, ce qui entraînait de pénuries de certains produits sur le marché et empêchait l'évacuation des autres produits qui venaient par bateau au port de cette cité. Désormais, le trafic routier vers Chikapa devient intense grâce à cette entreprise. Des transporteurs qui mettaient plus de 3 jours de route ne font plus que 4 à 7 heures. Selon l'ingénieur liévin Bachangila de la société civile locale, Djokopunda vient de connaître une grande ouverture. Son souci est qu'il soit de même pour les trois ponts qui restent sur les tronçons Djokopunda-Luebo. Sur ce, M. Stanislas Bouchabou, administrateur de territoire résident à Djokopunda, affirme avoir amorcé déjà de pourparler avec cette entreprise. Contacté à ce propos, Ignace Kankonde, administrateur délégué de cette entreprise, précise que les travaux vont se poursuivre jusqu'au désenclavement total de cette contrée. Il ajoute que ceci entre dans le cadre des actions sociales de développement, étant donné que son entreprise exploite le bois et les transports maritimes et aériens à Djokopunda. Kananga, Basile Bakumbane, Radio Okapi.
Parlons d'un autre pont, cette fois-ci au nord Kivu. Des travaux de construction du pont Kangote sur l'axe routier Butembo-Beni ont débuté ce lundi, évalués à 73 000 dollars américains. Les travaux de construction de ce pont qui relie la ville de Butembo au territoire de Beni sont financés par les recettes du péage. D'après l'Office des routes qui réalise cet ouvrage, les travaux pourront prendre fin dans 4 mois. Étienne Windou.
Exécuté par l'Office des routes, les travaux de construction du pont Kangote ont débuté ce lundi par le transport du sable et du moellon. Selon M. Léopold Kambale Makuta, chargé du suivi des travaux, le coût global de l'ouvrage est estimé à 73 000 dollars américains. Et d'ajouter, si les travaux avancent comme prévu, le pont sera inauguré dans 4 mois. Joué ce matin au téléphone, le gouverneur de province du Nord Kivu, M. Julien Paluka Ongia, a déclaré que la construction du pont Kangote est une priorité du gouvernement provincial. Dans ce cadre, la province du Nord-Kivu a remis dernièrement une contribution de 10 000 dollars pour financer les travaux préliminaires du pont Kangote poursuivi M. Julien Palou-Kahungia. A noter que le pont Kangote est le deuxième pont réhabilité par le gouvernement provincial du Nord-Kivu sur l'axe Butembo-Beni après celui de Kitahoura, inauguré en mars dernier. Étienne Mouindo, Butembo, Radio Okapi.
Nous le disions en titre, l'ancien commandant du FRPI, Cobra Matata, séjourne à Bounia depuis dimanche soir. Cet ancien seigneur des guerres, devenu officier supérieur des FRDC, a donné officiellement son accord pour le brassage de ses troupes, processus qu'il a suspendu il y a 8 mois. Le commandant des opérations FRDC par intérim confirme l'arrivée des 2 compagnies au centre de brassage de Rwampara dans 48 heures. Bounia, Sadala Chabani.
Dans ces galops des colonels FRDC, Cobra Matata, ancien seigneur de guerre, a participé pour la première fois à la réunion de commandement de la zone opérationnelle de l'Ituri. C'est au cours de cette réunion qu'il a donné officiellement son accord pour le brassage de ses hommes, processus qu'il a suspendu pendant 8 mois au motif de la reconnaissance des grades de ses officiers et de l'octroi d'une lettre d'amnistie. Le colonel Cobra Matata a déclaré à la radio Okapi que ces conditions ne sont plus de mise.
Ça va,
la raison qui a fait que je n'envoie plus mes hommes, c'est le fait que je n'avais plus de contact avec le colonel Ekuba. Cela a mené un peu de doute. Maintenant, je n'ai plus de conditions à donner.
Le colonel Marcel Ekuba, commandant de la zone opérationnelle à d'intérim, s'est dit confiant et confirme l'arrivée au centre des Rwampara des premiers éléments des FRDC d'ici 48 heures.
Bon, il nous avait dit que dans les 200-250 dans un premier temps, la première vague, c'est qu'il est vraiment venu pour intégrer notre armée. Et l'officier citoyen ne veut pas rester de la brousse, donc il a vraiment tout intérêt à réintégrer l'armée.
L'accord de Cobra Matata à reprendre le processus de brassage vient des efforts fournis par l'AMONIC, des responsables des districts de l'Ituri et ceux des FRDC qui sont allés à sa rencontre le samedi dernier à Medou, 40 km au sud de Bounia. Bounia, Sadala Chabani, Radio Okapi.
Et puis ces affrontements entre des FRDC de la 2e brigade intégrée et un groupe des combattants FDLR, cela s'est déroulé samedi dernier près de Miriki, à 20 km à l'ouest de Kanyabayonga. Selon le commandant second de la 8e région militaire des Finkaimbi, les FDLR venaient de Kinyamuranga et sont tombés dans l'embuscade d'une patrouille des FRDC. Le chef des cités des Kanyabayonga parle d'un civil et un FDLR tué lors de ces affrontements. Le colonel Delphin Kaimbi, lui, parle d'au moins 6 FDLR. Au sud Kivu, une personne a été tuée et 3 autres d'une même famille emportées dans la forêt du parc Kaozi-Biega par des présumés combattants hutu-rwandais. Selon des habitants proches des victimes contactées à Bukavu, l'attaque a eu lieu la nuit du vendredi à samedi à Kakunda, dans la localité de Fendula. Nous sommes dans le groupement de Kalungye. Toujours d'après la population, après avoir commis leur forfait, les agresseurs auraient fui vers le parc de Kaozi-Biega. Contactés, les autorités locales disent n'avoir reçu jusque-là aucun rapport sur cette attaque. La lutte contre le VIH-Sida ne sera plus seulement l'apanage de l'ONU-Sida. 18 autres agences des Nations Unies vont aussi s'y impliquer. C'est dans ce cadre qui se tient depuis ce matin à Kinshasa un atelier sur le renforcement des capacités sur la lutte contre le VIH-Sida. Ces assises dureront 3 jours. Le coordonnateur de l'ONU-Sida nous donne l'objectif de ces assises. Pierre Sommessé est joint par José Noussaoponde.
Il a pour objectif de former des experts système des Nations Unies appartenant à 18 agences qui travaillent quotidiennement dans le domaine du sida. Il est organisé pour exécuter les directives du secrétaire général des Nations Unies qui a pris des mesures pour renforcer le rôle des Nations Unies dans la lutte contre le sida dans le pays, pour que leur travail soit efficace auprès du gouvernement. C'est la première fois qu'on va avoir une équipe solide des Nations Unies qui va travailler ensemble. Et il faut leur donner les compétences qu'il faut